Au cinéma des Grutli à Genève avec Matteo Tortone, bonjour.
Bonjour.
Et on se retrouve pour parler de Mother Your Day qui sera ce soir au cinéma du Grutli, présenté en présence du réalisateur. On espère le public nombreux. Ce film a été présenté à la Semaine internationale de la critique pendant la Mostra 2021. Il a également été aux Journées cinématographiques de Soleure. Comment s'est passée cette présentation de ce film à la Mostra, enfin à la Semaine de la Critique?
C'est bien passé, c'était vraiment émouvant pour moi d'être là à la Mostra.
Sélectionné,
oui. C'était après c'était le premier festival complètement ouvert après la pandémie, donc ça a été doublement émouvant pour moi. Après, on allait conclure. On était en train de conclure un voyage de production de 6-7 années. Et donc, c'était vraiment un moment de joie pour toute l'équipe avec laquelle j'ai eu la chance de travailler. Et c'était vraiment un bel moment. Et après, on a eu aussi de bons critiques et qui ont fait tourner le film pas mal par des festivals internationaux partout dans le monde, de la Chine, des États-Unis.
Et déjà au Lido de Venise, le public était très enthousiaste.
Oui, il y avait la salle pleine et a été bien aimé le film. Et on a pu lire, comme je disais avant, de bonnes critiques. Et ça a été vraiment une première magnifique pour le film, pour le travail qu'on a fait.
Et Matteo, vous êtes né à Turin, dans la région turinoise. Vous avez étudié à l'Université de Turin. Et là, c'est une collaboration avec la Suisse, production. Et on se retrouve à Lima d'abord, puis après dans la région de Lima. Dans les montagnes, dans les mines. Comment un Italien se retrouve au Pérou?
Moi, j'ai toujours pensé que on est bon des hommes, des femmes comme ça que qu'on a. Bon, je crois pas vraiment à la nationalité et je voulais comme les marchandises peuvent. Pour voyager partout dans le monde, je pense que aussi les idées culturelles, les faits culturels peuvent faire la même chose. Donc j'ai travaillé aussi avant de Mother Lode, j'ai travaillé dans des contextes à l'extérieur. Et je me suis trouvé au Pérou parce que c'était le lieu meilleur pour moi. Pour conter l'histoire de la course à l'or contemporaine. Donc c'était le lieu où je pouvais trouver le personnage, l'histoire, les endroits parfaits pour conter une histoire de l'or contemporaine.
Bon, la course à l'or et aux métaux précieux, ça existe aussi en Afrique. Pour l'or, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans la Guyane française. Vers l'Amazonie, c'est terrible. Là, le Pérou, c'est aussi un choix pour le lieu, la Rinconada, qui est c'est un lieu particulier, qui a une identité à part entière.
Oui, absolument. J'ai eu l'idée de faire un film sur ça quand j'étais en Tanzanie. J'étais en Tanzanie et je tournais un autre documentaire et j'ai eu la chance de tourner aussi quelques jours dans un petit village, une petite mine d'or. Et j'ai entendu un côté métaphysique lié à la production de l'or là-bas. Et donc, j'ai essayé pour des années de trouver le bon endroit où tourner une histoire liée à l'or. Et je suis tombé, et donc je cherchais des lieux qu'il pouvait exprimer la conquête d'espace lié à la production de l'or, au niveau esthétique. Je suis tombé sur des images de la Rinconada, que c'est en fait la ville la plus haute du monde, parce que est à 5300 mètres sous le niveau de mer et construite au-dessous d'un glacier. Donc, il semblait, pour moi, semblait un village lunaire. Et donc, je me suis dit, bon, il faut tourner là-bas. Et j'ai commencé à étudier comment arriver avec une histoire à la Rinconada.
Il y a eu beaucoup de recherches avant de commencer déjà l'écriture du scénario et avant d'élaborer. Le personnage qu'on suit, c'est José. C'est un jeune père de famille qui vit difficilement. Il est chauffeur de taxi, scooter, enfin...
Oui,
un peu le triporteur dans les rues de Lima, c'est difficile. Et là, il décide d'aller tenter sa chance pour aider sa famille à mieux vivre en cherchant de l'or. Avant de faire tout ça, il y avait beaucoup de recherches dans le pays pour élaborer ce projet.
Oui, j'ai fait des recherches pendant des années parce que j'ai été en Tanzanie en 2010, donc j'ai étudié petit à petit jusqu'en 2014. Parce que j'ai étudié un peu le marché de l'or et comme je disais avant, j'ai cherché aussi d'en savoir en plus sur la minerie artisanale partout dans le monde pour comprendre où tournait ce film-là. Et finalement, dans 2014, j'ai écrit les premières choses. J'ai trouvé une production française qui m'a aidé à développer le film. Et finalement, en 2016... J'ai pu faire le premier voyage et bon, on voulait faire un casting, on avait organisé un vrai propre casting, mais le jour avant de le faire, un ami à nous, c'est un poète péruvien, Feliciano Mejia, il a travaillé beaucoup dans des villages sur les Andes, mais aussi à Lima, en faisant des workshops d'écriture créative pour les gars qui sortent de l'école. Et lui, il nous dit, bon, avant de faire le casting, je vais conseiller de connaître José et sa famille, parce que je pense qu'il est... Il est parfait pour faire ce film. Donc, on a connu José et après quelques mois, il m'a conté qu'il a découvert que l'or appartient au diable quand il était, qu'il avait 13 années. Et donc, j'ai préféré approfondir avec lui ce contenu plutôt que connaître des autres jeunes. Et lui, bon, on a commencé à travailler ensemble et à nous conter son expérience dans la mine qu'il fait normalement tous les années, quelques mois, dans des mines. Il avait tourné pas mal de mines partout le pays, donc soit sur les Andes, mais aussi en Amazonie ou bien dans la région de Lima aussi. Et donc, on a pu comprendre soit la dimension réelle de la vie dans une mine artisanale, que le discours lié au diable, ça veut dire le pensée magique qu'il est présente dans ce monde-là. Et après, avec lui, on a fait un voyage ensemble à la Rinconada. Et pendant le voyage, on s'est arrêté dans des villages, dans des lieux qui étaient connus par José, par son passé, par sa famille. Et on est arrivé ensemble à la Rinconada. Il n'était jamais été à la Rinconada. Donc, on a eu... découvert en même temps de lieu. Mais pendant le voyage, j'ai eu l'occasion de voir ces lieux très particuliers avec le regard de José et en particulier le regard qu'il avait quand il avait 13 années. Donc, ça veut dire qu'il me contait comment il a compris petit à petit comme ça marche le pensée magique. Donc j'avais la possibilité de voir les lieux et de les réinterpréter à la lumière du pensée magique. Et finalement, on a aussi parlé et décidé ensemble la parabole, on peut dire, le parcours de son personnage dans le film, entre la réalité et la fiction. Et c'est ce type de voyage que j'ai essayé d'amener au spectateur. Donc, le mettre dans la tête d'un jeune de 13 ans qui connaît la dimension de la mine dans un moyen qu'on peut dire très, très proche de la fable. Donc, fable, réalité, mythe et la vie dure dans la mine. Et c'est ça qu'on a cherché de faire, donc de jouer entre la fiction et la réalité, aussi avec la mise en scène, pour amener aussi cette question, cette demande au spectateur, qu'est-ce que c'est réalité, qu'est-ce que c'est fiction. Parce que le sujet est vraiment particulier, donc on parlait de pensée magique, et c'est quelque chose qui n'est pas réel, mais c'est dans une certaine forme est vrai. Et on a essayé de proposer au niveau formel cette réflexion aussi aux spectateurs.
Alors Mathéo, justement, je rebondis, il y a toute cette dimension magique, il y a des présages, il y a de la superstition. À un moment donné, on découvre une momie dans la mine. Est-ce que c'est aussi dans les Andes, c'est particulier, il y a toute une tradition autour de ces croyances, ces superstitions. D'ailleurs, Pachamama, c'est la mère nourricière. Est-ce que grâce à l'apport de José, tout ce qu'il a amené dans son expérience, ça a contribué à développer cette dimension magique?
Ah oui, absolument. Et pas seulement lui, mais tous les mineurs qu'on a rencontrés.
Sont des acteurs non professionnels.
Oui, sont tous personnes qui jouent son même vie. Donc,
ils jouent leur propre rôle,
oui,
leur propre vie.
Oui. Et donc, oui, ça a été très, très intéressant de comprendre comment le pensée magique manage la vie quotidienne de personnes et surtout les relations entre eux. Parce qu'au final, par un système géré par la superstition, et on arrive à découvrir aussi qu'il y a un principe de sacrifice humain, vrai et propre. Donc, ça veut dire que personne ne peut pas faire complètement confiance dans l'autre, dans les collègues, dans les copains, les copines. C'est pas vraiment faisable. Et donc, ça a été une découverte progressive pendant le voyage, pendant le tournage, grâce à José.
Et Mato, justement, à propos du sacrifice, la dimension sacrificielle, ça vient déjà de l'époque amérindienne.
Oui, ça vient de là, mais avec une grande différence. J'ai découvert après le premier voyage, parce qu'avant de faire le premier voyage, je n'avais pas voulu étudier le côté métaphysique propre du Pérou lié à l'or, parce que je ne voulais pas
être influencé.
Donc j'ai étudié ça après le premier voyage. Et il y a un livre très, très intéressant écrit par Michael Tossig, qui est un anthropologue. C'est le chef du département d'anthropologie de la Colombie. De Columbia University.
Columbia.
Et il a écrit dans le juin 82 ce film qui s'appelle Le diable et le fétichisme du marchandise dans la Latin America. Et il décrit tous les rituels et les moyens de représenter le diable dans la mine, du Mexique en bas. Et au final, il démontre que oui, il y a un côté culturel, mais les nombres et la férocité des rituels sont directement proportionnels au prix de l'or. Donc, il démontre que même le sacrifice humain, c'est une question de marché et pas culturel.
Donc c'est pas forcément lié aux idées, aux croyances. C'est
Non, c'est pas.
influencé par les statistiques et les chiffres du marché.
Oui, parce que ben, pour plusieurs choses, mais la première, c'est que travailler dans la mine, c'est un travail de saisonnal,
Saisonnier, oui.
saisonnier. Et après, il devient plus. Donc, il y a. Quand on regarde quand on regarde la ligne du prix de l'or,
Le taux.
on est en train aussi de regarder milliers de personnes qui se bougent pour ça, qui sont en train d'y aller à la mine pour travailler ou de retourner chez eux. Et donc, ça veut dire que quand le prix est haut, il y aura plus de gens qui travaillent là-bas. Donc, il y aura plus de facteurs humains. Donc, même le sacrifice, le rituel lié
Sont plus importants.
au diable. Il n'y a plus parce qu'il n'y a plus d'êtres humains là-bas.
Mathéo, justement, se frotter au milieu de la recherche de l'or, on a mentionné la Guyane en début d'entretien, c'est dangereux. Est-ce qu'il y avait des risques pendant le tournage? Est-ce qu'il y a eu des autorisations à obtenir? Comment ça s'est passé?
Oui, on a travaillé avec une médiatrice culturelle depuis le début de 2015 et nous on a tourné au début de 2019. Elle a travaillé pour des années pour convaincre tous les pouvoirs qui sont là, non? Pour nous donner la possibilité de rester des semaines pour travailler là-bas et surtout pour avoir des relations avec des gens, pas seulement pour voler des images et y aller. Et donc on partait déjà avec ce travail-là. Après, pendant le premier voyage, on a aussi strict une relation avec l'autorité municipale, qui la responsabilité de la rinconnade et de l'aventure. Mais quand même, après, pour tourner dans la mine, là, non, on a pu le faire parce qu'on a été accompagné par des policiers avec des rifles,
Des fusils,
des
des
fusils,
pistolets.
oui, de Kalachnikov. Hein, ce
Ah,
policier avec des Kalachnikov, parce qu'il y a aussi un problème dans cette mine-là, il y a une sorte de piraterie dedans les mines. Ça veut dire qu'il y a des groupes armés qui volent tout ce qu'ils peuvent
les mineurs
trouver.
trouvent.
Oui, donc le matériel ou bien les machines pour travailler, tout ça, la machinerie, tout ça. Et donc, on a pu tourner seulement avec ça. En plus, il y a, oui, ce sont des lieux très difficile à joindre, ça veut dire qu'il y a des routes vraiment mauvaises et dangereuses, seulement par la formation physique, hein,
Biologique.
biologique, si. Mais aussi parce qu'il y a cette piraterie aussi sur les routes qui l'amène à les mines, parce qu'il y a plein de gens armés qui cherchent de voler l'or qui provient des mines. Le contexte, c'est celui-ci.
Donc la médiatrice culturelle a travaillé au niveau déjà national, au niveau régional, et puis au niveau
Tous
de
les
ces...
niveaux.
Voilà, au
Tous
niveau
les
de
niveaux,
ces...
parce que c'est un lieu où il y a une convergence de plusieurs pouvoirs, hein, économiques, politiques, mais aussi la mine artisanale, c'est un lieu parfait pour laver d'argent qui provient. Par exemple, par la production de cocaïne. Hein. Donc, elle a dû parler avec tous les gens qu'ils ont le pouvoir de, qu'ils avaient le pouvoir de nous faire rester là-bas, dormir là-bas, pour, tranquillement pour des semaines.
Et Mathéo, cette expérience, est-ce que ça a ouvert le regard sur, on entend souvent dans les médias des gens qui disparaissent, des simples touristes. Et est-ce que ça a ouvert le regard sur une réalité qu'on ne soupçonne pas forcément au Pérou ?
Oui, je pense qu'il n'est pas seulement un discours qu'on peut faire sur le Pérou, mais au moins sur tout le Latin-Amérique. Et c'est aussi une possibilité de voir, de lire cette histoire au niveau métaphorique pour, aussi pour notre société. Je ne sais pas ici en Suisse, mais on sait bien en Italie, on a un moyen de 3 morts sur le travail au jour. Ce n'est pas des rituels. Mais ce sont des sacrifices humains quand même. Donc on peut... Bon, je pense que ce soit l'occasion de lire le film au niveau métaphorique pour, aussi pour nous.
Mathéo, vous avez mentionné qu'il y avait une sorte de oscillement entre la fiction et le documentaire. Et par rapport au documentaire, j'ai trouvé très impressionnant la façon de filmer les visages très proches. Par exemple, quand José est sur son taxi scooter, on le voit en train de conduire. Après, quand il part à la montagne, on le voit très proche, au niveau des jambes aussi, sur le camion qui l'emmène. C'était un choix esthétique.
Oui, oui, absolument. Avec Patrick Trash, qui est un très, très grand
ami.
Ami, mais chef-op aussi. Et on a choisi d'avoir. D'avoir cette proximité avec, avec José, mais en plus de chercher d'avoir la plus grande profondeur du champ possible pour mettre l'histoire de José à l'intérieur d'un monde plus grand. Donc, en même temps, on a cette proximité, mais on a aussi la possibilité de voir plusieurs actions dans la même image, pas seulement de suivre le protagoniste, mais aussi de voir qu'est-ce qu'il passe à ses épaules.
Oui, justement, quand on voit filmer au niveau des jambes sur la camionnette qui l'emmène, on voit les autres camionnettes derrière, donc il y a toujours cette double lecture pour les spectateurs.
Et oui, parce que nous, parce que c'est vrai que l'histoire, au niveau structurel, l'histoire de José, c'est une histoire de fiction. Mais en même temps, c'est complètement inséré dans un monde réel. Et nous, on voulait trouver la façon d'être surprise par le monde réel. Et donc, on a eu cette surprise plusieurs fois pendant le tournage, dans plusieurs
séquences.
Dans plusieurs séquences, on a cherché la position de la caméra pour conter l'histoire de José, mais aussi pour être surprise par les choses qu'il passait à côté.
Parce que le lieu est un protagoniste aussi.
Le lieu absolument est protagoniste aussi. C'est aussi la... Ben oui, ce n'est pas une histoire individuelle, hein, parce que l'histoire de José, c'est l'histoire des autres dessins, dizaines de
mineurs,
comme ça. Dizaines de milliers de mineurs comme ça. Au niveau historique, dizaines de millions de gens comme ça. Parce que quand tu voyages dans des villages comme ça, tu comprends qu'ils ont une histoire de 300, 400 années. Hein, et tu comprends que l'histoire, comme dans le film, l'histoire de José, c'est une histoire qui se répète depuis...
De génération en génération.
400 années, oui, et qu'il a produit des millions de morts. Tu penses que c'est le monde à Potosi, dont ils produisent de l'argent et pas de l'or. Ils ont eu quelque chose comme 6 millions de morts seulement là-bas, seulement dans un village, une ville. Donc, tu peux comprendre qu'au niveau de toute la Latin-Amérique, la dimension de la tragédie liée à la production de l'or, c'est énorme.
C'est immense.
Et donc c'est impossible de fuir de cette dimension quand tu traverses cette lieu-là.
Et cette réalité de chercher de l'argent ou de l'or, elle est apparue déjà avec Los Conquistadores, les Espagnols qui sont arrivés C'était leur soif de trouver des minéraux
Et oui,
importants.
c'est là qu'ils changent le rapport avec l'or. Avant, c'était seulement une question des rituels. Donc, avant, ils travaillaient pour chercher de l'or seulement pour des questions liées aux rituels. Après, avec les conquistadors, ça devient une question de marché, un problème de marché. Et on connaît tous qu'est-ce qui est passé.
Voilà.
C'est pour ça aussi que j'ai découvert que le diable qui vit dans la mine a un visage d'un homme européen où ils disent qu'il semble un gringo. Donc,
en même temps, le diable il est apparu avec la religion catholique qui est arrivée.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Et bon, chacun peut...
Interpréter,
oui, je
et
pense
comprendre.
Que les jésuites, je pense que ils ont fait quelque chose sur ces choses-là.
Oui, déjà, ils ont fait à Las Misiones, à la frontière d'Argentine. Le choix du noir et blanc, il est apparu quand, dès le début?
Oui, il est apparu dans le début et pour plusieurs
raisons,
oui. La première, c'est qu'on savait de traverser des lieux très exotiques. On ne voulait pas mettre l'accent sur le côté exotique.
Carte postale.
Mais aussi parce qu'avec le noir et blanc, la dernière image du film, c'est une petite d'or. Mais en noir et blanc, on ne peut pas voir que c'est de l'or, on ne sait pas. Donc c'était un moyen très synthétique pour proposer, pour questionner un problème de valeur entre l'argent, l'or, la vie humaine, seulement au niveau esthétique.
Et par rapport au lieu, la Rinconada, c'est un lieu qui paraît dangereux quand même. Et on voit que ces hommes qui partent pour gagner de l'or, en trouver... pour aider leur famille à vivre mieux. Ils dépensent leur argent dans l'alcool, la prostitution.
Oui, c'est partout comme ça. J'ai eu des comptes que c'était très, très intéressant, mais que je n'ai pu pas mettre dans le film. Par exemple, le frère de José, il m'a conté que quand il avait 15 ans, il a gagné 25 000 $ dans un jour. Et après, il est rentré dans un bar. Et il est sorti du bar un mois après, avec rien, avec des centimes. Donc la vie est faite comme ça dans ce lieu-là. Donc le travail se base aussi sur vraiment des gamins qui vont travailler. Donc ce n'est pas des personnes qui peuvent vraiment raisonner bien. Et toute la structure du lieu s'est fait, et aussi la structure du pensée magique s'est fait parce que c'est fait que les gens ne peuvent pas s'échapper. Donc tu gagnes quelque chose et après tu dois le dépenser complètement là-bas parce que tu dois rester là-bas et le lendemain retourner à la mine pour travailler. Et ce sont des petites prisons. Et c'était aussi une chose qu'on a vu voisin à nous quand on était en train de tourner, parce que on a vu que c'est très facile de rester là-bas. On a vu de filles qui voulaient s'en aller de la Rinconada, mais et donc quand ils étaient en train d'attendre le bus, le transport, ils ont perdu leur sac et qu'ils ont découvert deux jours après, mais
le bus est parti. Mais est-ce que le fait aussi de dépenser ce qu'on gagne, est-ce qu'il y a une dimension d'offrande puisqu'il y a beaucoup de magie?
Oui, c'est aussi une dimension d'offrande, parce que si tout bon pour gagner parce que le système se fait comme ça, il s'appelle cachorreo, et donc ça veut dire que tu n'as pas de salaire. Tu travailles gratuitement et après tu as la possibilité de prendre du matériel dans la mine et après de faire tout le processus pour avoir de l'or de ce matériel. Donc c'est vraiment important les moments dans lesquels tu peux prendre l'argent. Donc, ça veut dire, si la veine de l'or est grande, tu auras la possibilité de gagner beaucoup. C'est petit, très peu. Donc, sur cela, sur cette, on peut dire, dimension des chances, c'est construit la grande partie du pensée magique. Donc, et aussi, les rituels sont liés au fait de faire agrandir la veine. Et je me rappelle plus, on est parti.
Oui, je disais, est-ce qu'il y a une dimension d'offrande, justement, quand on gagne beaucoup de...
Après, ça veut dire, pour le rituel, il y est parce que tu dois offrir des choses au diable. Dans ces dimensions d'offrande, aussi boire et avoir plusieurs filles est une sorte d'offrande.
Pour avoir une protection, en fait.
Pour avoir une protection, oui, c'est ça. Et donc, Osée me disait, et vous pouvez le voir aussi dans le film, qu'il se crée toute une dimension dans laquelle les gens vont à travailler complètement...
Gratuitement.
Sous, non.
Ah, sous.
Gratuitement et complètement sous.
Après avoir connu des filles.
Après avoir connu des filles, mais peut-être qu'ils ne se rappellent
même pas.
Plus, même pas, oui. Oui, c'est ça.
Et la dimension...
Des filles qu'ils sont amenées là avec, c'est pas...
Par les groupes armés.
Leur choix.
C'est par les groupes armés, justement, qui dominent.
Mais c'est la dimension des violences comme ça, c'est... Il y a plusieurs niveaux, donc c'est pas évident, on n'a pas de groupes armés partout, mais il y a aussi cette côté-là, oui. Sinon, c'est une gestion, on peut dire un peu, qu'il arrive à gérer les choses et les relations dans une dimension manipulative, plus que des violences explicites. Et donc, on doit penser aussi que dans ces villages-là, on a aussi des milliers de femmes qui sont là, qui sont jetées dans un circuit de prostitution.
Mais ce n'est pas leur choix.
Non, la plupart est amenée dans, je ne sais pas si en français ça dit, la traite.
La traite, oui.
Oui, ce sont victimes de traite, absolument.
Là, on entend de la musique, ce n'est pas celle de Madame Lede. On va bientôt terminer. Pour parler de l'aspect du lieu, la Rinconada, cet aspect lunaire, ça contribue à la dimension justement de magie, de superstition, de toute cette dimension magique.
Ah oui, absolument. Aussi parce qu'il y a une chose très particulière dans ce ville-là, à part qu'on a le glacier, on est... Et après, on est dans une bidonville, mais au-dessous d'un glacier. Et après, il y a ce phénomène que c'est tout à fait particulier. C'est une ville. Dans ce ville-là, il y a des milliers de poupées à dimension humaine qui sont vêtues comme des mineurs et qui représentent des mineurs qui sont morts, disparus, mais aussi les anciens et aussi le diable. Et tu peux trouver des milliers dans les petits roues ou devant le tunnel de la mine ou dans la mine. Et donc c'était aussi particulier et j'ai choisi aussi la Rinconada parce qu'on avait la possibilité de terminer le film en voyant d'une certaine façon la représentation du diable. Et donc aussi cette chose très particulière contribue à donner des matières, non, à cette dimension un peu métaphysique qu'on a cherché de produire pendant le film.
Là, il y a du public, peut-être qu'il va rester pour voir le film tout à l'heure, puisqu'il y a à 20h la projection. Oui. Pour terminer, comment on ressort d'une telle expérience, Matteo ?
Ben, on sort avec une connaissance d'un monde particulier, mais que c'est très particulier. Je ne sais pas, on a eu la chance d'avoir des relations avec beaucoup de gens. très différent par culture, par vie quotidienne de nous, mais avec lequel on a eu des échanges vraiment sincères. Hein?
Mais personnellement,
oui, aussi au niveau personnel.
Ça marque.
Ça marque comme beaucoup d'autres expériences. C'est vrai que c'est quand. Oui, parce que tu arrives à. La chose que ça marque le plus, c'est que tu arrives à pouvoir condivider ta propre vie.
Partager
ta propre vie avec des gens qui sont. Très loin de toi, et à se comprendre, et à comprendre leur dimension très particulière. Donc c'est une chose qui te fait grandir au niveau personnel, et j'espère aussi que de pouvoir donner quelque chose de cette mon expérience aussi aux spectateurs.
Alors ce soir, 30 janvier, au Grutli, il y a la projection. Le film, il était donc en 2021, la semaine de la critique à la Mostra. En Italie, il est déjà sorti?
Oui, il est sorti avec Zalap partout l'Italie depuis mai.
Et l'accueil du public?
Ah, ça a été bien, oui. J'ai, dans toutes les villes que j'ai faites et dans toutes les séances, c'était très intéressant après répondre aux questions du public, et j'ai vu que c'est. Ben, j'ai pas vu de spectateurs qui sont sortis du cinéma, comment on peut dire, pas contents d'avoir vu cette chose. Ce film, que c'est très particulier, que c'est difficile de trouver ailleurs.
Alors, on espère qu'il y aura autant de public à 20h.
Oui.
Complimenti, Matteo.
Merci.
E in bocca al lupo per l'uscita in Svizzera.
Grazie mille.
A te, grazie.